ערב טוב, בונסואר, מרסי המשפחת לוי, רפואה שלמה, רישאר. מרסי encore une fois pour votre accueil. Le שיעור sera aussi à la mémoire de mon père, זיכרונו לברכה, רבי שמעון בן עיישא. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. Aujourd'hui, בעזרת השם, merci beaucoup, ça me touche. Toda rabba. Ça me touche énormément. Toda rabba. Waouh. Je suis très touché, vraiment. Toda rabba. Merci beaucoup, vraiment. Mais maintenant, vous m'avez cassé le... Merci à tous. Je suis très 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 touché. C'est avec plaisir que je fais ce que je fais. Et top, on va continuer avec Bezrat Hashem. C'est tous les combien que je me prépare. Merci beaucoup. Nous avons commencé il y a deux semaines le quatrième livre de la Torah, le livre du désert. En hébreu, Bamidbar, c'est un livre qui traite, qui met en relief tous les problèmes individuels du peuple d'Israël. Tout simplement parce que nous sommes sortis d'un contexte général, global, et que le fait de marcher dans le désert, ce n'est pas seulement une marche, mais une démarche. Il y a là donc une éducation de la Torah, comment l'homme doit, au niveau individuel, se placer par rapport aux valeurs qu'il est censé transmettre, faisant partie de ce peuple d'Israël. C'est pour cela que l'ordre humain était en fait le reflet, la réflexion de l'ordre divin. Et l'emplacement des tribus dans le désert était fait d'une manière très précise, où l'homme, en réalité, individuellement parlant, était jugé par rapport à sa proximité ou par rapport à son éloignement du centre névralgique du Kodesh. Au centre de toutes les tribus d'Israël, il y avait ce qu'on appelle un camp, un campement de la Shekhina, Machane Shekhina. Autour de ce Machane Shekhina se plaçait la tribu de Lévi, et autour de la tribu de Lévi, les 12 tribus d'Israël. Donc Lévi est une famille, en fait, qui était responsable du démontage et du remontage de tous les éléments du Mishkan et de les transporter dans les voyages entre la sortie d'Égypte, donc l'Égypte, et Jérusalem. Ce qui fait que, de temps en temps, selon le problème individuel de l'homme ou de la femme, il faut ou bien éloigner la personne du Kodesh, ou bien le rapprocher. Parfois, le soin, c'est justement de l'éloigner. Par exemple, quelqu'un qui est tombé dans la fosse de la médisance, étant donné qu'il a détruit le tissu social, eh bien, sa réparation, je ne dis pas punition, sa réparation, c'est en réalité de se retrouver lui-même, avec lui-même, et donc il fallait l'éloigner du centre du Kodesh. Dans d'autres cas, il fallait rapprocher. Un problème de couple, Étant donné que l'essence même du couple, c'est la Shrina qui réside entre lui et elle, eh bien, lorsque le couple ne marche pas, c'est que l'un d'entre eux, ou les deux, a oublié cette Shrina, donc il faut le rapprocher ce couple pour corriger l'atmosphère qui règne à l'intérieur de ce couple-là. Donc en réalité, l'homme doit avoir une mesure étalon, et la mesure étalon de l'homme, c'est la Shrina. Ça, c'est au niveau de ce livre de Bamidbar. Mais je vais un petit peu élargir l'image, la trame, et avant tout, ce livre de Bamidbar est un livre de mouvement. C'est-à-dire qu'il va traiter d'un mouvement, d'un peuple qui vient de naître en Égypte et qui est censé atteindre la terre d'Israël pour, à partir de cette terre-là, dévoiler l'éthique qui dépasse l'entendement humain. On le dit tous les jours, « Beshivtecha beveitecha, uvelechtecha baderech ». La Torah appartient à l'homme lorsqu'il est dans sa maison, Beshivtecha, lorsque tu es assis, Beveitecha, dans ta maison, mais uvelechtecha baderech, aussi lorsque tu marches. Autrement dit, la Torah sait gérer les différentes situations de l'homme. Ce n'est pas la même gestion d'un homme qui est couché, d'un homme qui est assis chez lui, et un homme qui marche, qui a un mouvement et qui avance vers quelque chose. Étant donné que les chemins, d'une manière générale, donc la démarche ou la marche, en hébreu halakha ou halikha, sont toujours synonymes de danger. Les sages nous ont indiqué de faire une bénédiction spéciale au moment où nous marchons. C'est ce qu'on appelle Tfilat Haderech. Et donc, Kol Hadrachim Becheskat Sakana, comme ça disent nos sages, tout ce qui est chemin est dangereux par définition. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que lorsque tu es en chemin, lorsque tu es en marche, tu es en déséquilibre permanent. Il n'y a qu'une seule jambe qui te porte, parce que tu n'es plus dans la stabilité. Donc pour marcher, tu es obligé de lever un pied, et donc il n'y a plus qu'un seul pied qui te porte, et chaque fois tu tombes. Mais au lieu de tomber, tu es porté par le pied que tu viens de lever. Autrement dit, la marche de l'homme est une chute permanente, et à chaque fois il se rattrape. Mais c'est la seule condition pour avancer. Ceux qui ont peur de tomber ne marchent pas dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils préfèrent rester statiques, alors que l'homme, par définition, s'appelle Mehalech, celui qui marche. C'est comme ça que nous sommes appelés par rapport aux anges. Les anges s'appellent Omdim, ils sont statiques, alors que les hommes s'appellent Mehalchim. Ils sont dans une démarche et dans une marche perpétuelle pour une évolution perpétuelle. Et donc le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où on est obligé de marcher. Il y a un mouvement permanent. On peut dire donc, par conséquence, que le livre de Bamidbar qui traite donc de ce mouvement, c'est le livre qui correspond à la vie. C'est là où on marche, c'est là où on avance. C'est la racine même de l'homme et de ce qu'il est venu faire dans ce monde. Maintenant, pour marcher, il faut toujours avoir, encore une fois, ces deux jambes. Les anges s'appellent Omdim et on les traite de Regel Yeshara, comme s'ils avaient un seul pied droit. Autrement dit, pour marcher, il faut deux. Pourquoi il faut deux ? Ben tout simplement parce que le monde dans lequel nous sommes, et je l'ai dit déjà plusieurs reprises, est un monde qui est basé sur un système binaire. Tout ce que vous faites dans votre vie, c'est basé sur ce système binaire, y compris ceux qui sont dans les ordinateurs toute la journée. C'est un système qui marche toujours sur 2 degrés. Et donc, ce qu'on appelle la pluralité, le début du pluriel, la lettre bête, le début. Et la Torah vient nous enseigner qu'il y a, entre l'Égypte et Jérusalem, 42... J'entends pas. Voyage. J'ai entendu étape, surtout pas. 42 voyages. Arbaim veshtaim mem bet masaot. Et non pas chanayot. Autrement dit, la Torah ne traite pas des moments où nous sommes arrêtés, campés, mais elle veut nous mettre en relief précisément les moments où nous avons avancé. Et donc elle parle de 42 avancements et non pas de 42 étapes. Pourquoi il faut parler d'avancement ? Mais tout simplement parce que dans ces voyages du désert, il y avait déjà un temple. Il fallait faire quoi avant de commencer un voyage ? Eh bien, il fallait démonter le temple. Démonter le temple, ce n'est pas une mince affaire. Je ne parle pas maintenant du problème technique. Je parle d'un problème qui incombe à chacun de nous. Chacun de vous, chacun de nous s'est construit dans sa vie un temple. Un temple d'idées, une certaine assise, un certain âge, certaines acquisitions. Et il est très très difficile de démonter vos temples pour continuer et avancer. Alors allez démonter le temple du désert. Ce n'est pas juste un problème technique que la Torah vient nous dire qu'à chaque fois qu'il y avait certes un voyage, il fallait démonter le temple. C'est quelque chose d'incroyable. Parce que lorsqu'il y a le temple, au moment de chaque étape, il y a des chérubins. Entre les chérubins, on entend la parole divine. Donc c'est très rassurant. Pourquoi démonter tout ça ? Pourquoi ne pas rester dans cette étape définitivement ? Eh bien, la Torah vient insister et nous dire, si tu n'es pas capable dans ta vie de démonter pour avancer ton propre édifice, tu n'avanceras jamais. Tu es dans ta zone de confort et tu n'as plus envie de bouger. Et ça, c'est le plus grand danger du judaïsme. C'est notre grande différence avec Esav. Esav, c'est l'Occident. Ésaü. Les sages nous disent pourquoi il s'appelle Esav. Ne lis pas Esav, mais Assouï. Il est fait. Il est fini. Alors que Israël n'est pas Israël dès le départ. Au départ, il s'appelle Yaakov. Et après, il évolue, il devient Israël. Après, il évolue, il devient Yeshurun. Et il évolue, et il évolue, et il évolue. Autrement dit, la différence fondamentale entre Israël et les nations, c'est qu'Israël, c'est le mouvement, alors que les nations du monde sont plutôt statiques. Et on va essayer de comprendre ce secret qui, dans la Kabbalah, s'appelle Yosher ve'igulim. Le Yosher, c'est la droite. Les Igulim, c'est la forme circulaire qui, bien entendu, touche à la nature, qui est elle-même un grand cercle, un grand ballon. Toute la nature, tout l'univers, tout entier est un grand ballon. Et à l'intérieur de ce grand ballon, il y a des balles. Toutes les planètes sont circulaires. Tous les mouvements de ce monde sont circulaires. Il n'y a pas de ligne droite dans ce monde. L'univers ne connaît pas la droite. Même quand vous tirez un rayon laser, il devient courbe, En hébreu, on l'entend dans le mot teva, la nature, qui donne résonance au mot tabaat, une bague. Donc le mot teva veut dire se noyer aussi. Litboa. Autrement dit, l'homme peut se noyer dans ce monde qui l'enferme dans une bague étouffante. Et tu peux très facilement rester et mourir à l'intérieur de ton cercle en tournant en rond. C'est ça, tourner en rond. Tourner en rond, c'est tout simplement rester dans la nature, dans la première phase dans laquelle tu nais. Le mot nature vient du mot naître. Nous sommes nés dans un mouvement circulaire. Le ventre de la mère, le fœtus, sa position, tout est circulaire. Il n'y a pas de droite dans ce monde. Je le répète. La seule droite de ce monde est une droite divine. Le problème, c'est que le divin, pour se dévoiler dans le monde circulaire dans lequel nous vivons, eh bien, il doit pénétrer à l'intérieur de l'atmosphère, entre guillemets, de ce grand ballon. Et lorsque l'infini, béni soit-il, pénètre l'atmosphère de ce grand ballon, il utilise un intermédiaire qui doit être lui-même de la même valeur, capable de traduire les valeurs de cette rectiligne, de cette droite, en hébreu yachar. Donc Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle El, a trouvé le Yachar dans ce monde. Yachar et elle, ce sont les lettres de Israël. Donc le peuple d'Israël est le seul peuple à la mémoire de la droite, alors que tout le monde est dans un degré de cercle. Ces cercles-là sont des cercles qui étouffent. Lorsque le cercle n'a pas trouvé sa direction. Le cercle par excellence, la nature donc par excellence, le summum de la nature, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est pas seulement un pays, c'est une notion qui enferme l'homme dans un mouvement circulaire dans lequel il y a une multitude de possibilités, mais aucune d'entre elles n'aboutit, parce qu'il n'y a pas de direction. Donc en réalité, tu tournes en rond dans tes pensées. Et beaucoup de gens pensent parce qu'ils pensent. Alors que le judaïsme te dit que ta pensée doit être vécue. Sinon c'est de la philosophie. Philosophia en hébreu, découpez le mot, philosoph, c'est une bouche sans fin. C'est-à-dire tu parles, mais tu ne sais rien. Le judaïsme, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que nous sommes donc la mémoire divine. Or, le divin, qu'a-t-il fait ? Baruch she'amar ve'haya ha'olam. Baruch omer ve'ose. Baruch gozer u'mekayem. Le judaïsme, ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas virtuel. C'est une pensée créatrice. C'est une pensée qui a des jambes. Et ceux qui ont un problème avec la traduction de la pensée au niveau de leurs jambes, eh bien ont du mal à sortir d'Égypte. Et ils restent en Égypte. Quelle est la proportion à l'intérieur de nous ? Moi, Yoël, j'ai 100%. Combien de Yoël est capable de trouver la direction dans sa vie et combien de parties de Yoël préfèrent la zone de confort? Les sages nous disent maximum 20%. Parfois ça peut être 2%. Et parfois ça peut être 2 pour 600 000. Autrement dit, combien parmi ceux qui sont sortis d'Égypte sont rentrés en terre d'Israël ? 2 personnes. Personne de ceux qui sont sortis d'Égypte n'est entré en Israël, sauf Yoshua et Caleb. 2 personnes. Ils sont sortis 3 millions, 4 millions. Deux personnes d'entre elles sont sorties, sont arrivées en Israël. C'est terrible. Israël, c'est pas seulement la terre. Vous comprenez que Israël, terre, c'est aussi Yachar, elle. Donc, il y a 2/4 millions, faites un petit peu la traduction mathématique, qui sont capables de trouver la direction réelle dans leur vie. C'est terrible. Ça fait très peur. Alors je vais rester un petit peu pour vous rassurer dans les 20%. 20% ne sont pas sortis d'Égypte. Ils ont préféré rester dans la zone de confort. Dans le premier ghetto de l'histoire. Ça rassure un ghetto. Il s'appelle Goshen. Dans le pays de Goshen, premier ghetto d'histoire, personne ne nous enferme là-bas, on est là-bas tranquille. On a des communautés juives, avec de la viande cachère, des boucheries cachères, des synagogues, des yeshivot que Yehuda, le fils de Yaakov, a instauré, un très 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 grand rabbin qui s'appelle Aharon, magnifique. Pourquoi sortir d'Égypte? Pas la peine. J'ai déjà une belle communauté, pourquoi dois-je sortir d'Égypte? Si Akadosh Baruch Hu se suffisait d'une Torah, et non pas d'une direction à cette Torah, eh bien la Torah aurait pu être donnée en Égypte et on serait resté là-bas, comme on dit dans la Haggadah de Pessah, nous, nos enfants, nos petits-enfants, jusqu'à l'arrière, arrière-petits-enfants, on serait encore esclaves du Pharaon. Qu'est-ce que c'est esclave du Pharaon? Esclave du monde circulaire qui n'a pas trouvé sa droite, sa ligne, sa direction. Moralité, cette droite, c'est la Géoula, c'est la rédemption du monde circulaire. Donc faire sortir un groupe qui s'appelle Yachar El Israël de l'Égypte, c'est tout simplement donner à l'Égypte, qui est une balle, un sens. Vous avez compris? Donc sortir d'Égypte, c'est donner un sens à sa vie. C'est tout. Si vous avez un sens à votre vie, et ce sens ne peut pas venir de vous, car vous, avec tout ce que vous avez et tout ce que vous aurez, c'est toujours la nature. Donc vous êtes toujours dans votre propre bulle. Donc il faut obligatoirement, pour sortir de cette bulle et avoir une direction, un message qui vient de l'au-delà. Un message qui dépasse, qui transcende les valeurs du temps, de l'espace et des limites telles que nous les apprécions en tant qu'hommes. Moralité, tu peux écrire tous les livres de la planète, tu peux inventer plein de choses, mais tu es encore en train de te mordre la queue. Hein, tu es dans un monde circulaire. Ce n'est pas par hasard que l'Égypte, toutes ses formes sont serpentesques. Parce qu'en réalité, ils tournent en rond. Et le serpent ne sait pas marcher droit, c'est toujours comme ça. Alors que le peuple d'Israël, vous savez que les Égyptiens aussi mettaient les tfilines. Les tfilines des Égyptiens, c'était la même chose, seulement à la fin, au bout, au lieu d'avoir une droite comme chez nous, ils avaient un cercle, un serpent. La même chose au niveau des tfilines de la tête, ils avaient la même chose avec un serpent, alors que chez nous, c'est un boîtier directionnel qui a un sens. La valeur numérique de l'Égypte, Mitzrayim, c'est en réalité, quand vous faites le tzimtzoum de tous les chiffres, 380, 1 plus 1, 2. Donc l'Égypte, c'est le monde binaire, le monde naturel dans lequel nous sommes. Nous sommes nés dans un grand 2. C'est pour ça que la Torah commence par la lettre Bet. C'est tout, on est dans un monde de 2. On l'a déjà répété à plusieurs reprises. Les notions de temps, qui s'appelle la seconde, c'est toujours 2. La distance entre toi et moi, il faut 2. Chaké, shnia, attends 2. Nous on appelle attends une seconde. Donc j'ai besoin d'avoir 2 pour mesurer le temps. Donc je suis bloqué dans un système temporel, qui est lui-même bloqué dans un système espace, donc l'espace-temps, et l'homme qui est coincé au milieu. quelle est la force qui vient de l'au-delà et qui transcende tout ça? Le tétragramme, les quatre lettres du nom de Dieu que vous voyez. Alors c'est pas James Bond qui a plusieurs prénoms, c'est tout simplement le nom de l'existence de la droite qui doit pénétrer absolument ce cercle. Ces quatre lettres de Yud, de He, de Vav et de He que vous voyez dans vos livres de prière, vous pouvez écrire avec le passé, le présent et le futur. Haya, Hove, Ihye. Autrement dit, ce nom-là représente ce qui dépasse l'entendement humain et qui sort du cercle. Ça ne veut pas dire qu'il faille se sauver du cercle. Il faut utiliser le cercle pour lui donner une direction. Et quel est le nom de Dieu qui incombe, qui a trait au cercle de la nature? Elohim. Et quand vous voyez le nom de Elohim, déjà vous entendez que c'est au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'il traite au moins du deux. Donc il est dans le monde des détails, donc il est dans le monde de la nature. Alors qu'est-ce que je dois faire pour donner un sens au nom de Dieu qui est la même valeur numérique d'ailleurs que la nature 86? En hébreu, Hateva, Tabat, le cercle, Elohim, c'est le même chiffre, 86. Alors que le tétragramme, c'est 26. Donc je dois prendre un 86, un ballon, et lui donner une direction 26. Donc 86 plus 26 sont 12, 112. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre 112? Ce sont trois lettres en hébreu. Le Kouf, c'est 100. Le Yud, c'est 10, et le Bet, c'est 2. Je viens d'écrire un nom qui, pour vous, ne veut rien dire, mais dans la Torah, il est mentionné, il s'appelle Yabok. Qu'est-ce que c'est que le Yabok? Eh bien, c'est un passage obligatoire pour rentrer en terre d'Israël. Et qui a emprunté ce passage qui s'appelle Yabok, qui, comme par hasard, ce sont les lettres de Yaakov, sauf la lettre Aïn, qu'on va mettre de côté. Enlever la lettre Aïn de Yaakov, il reste Yabok. Incroyable. Donc Yaakov, qui est Israël, pour devenir Israël, doit emprunter ce passage secret qui s'appelle le Yabok. Alors au niveau territorial, il existe cet endroit. Mais au niveau de la pensée, ça veut dire que pour entrer en terre d'Israël, je dois faire une action. C'est prendre le monde de la nature avec sa valeur 86, le nom de Elohim, le pluriel, et lui donner un sens, le tétragramme, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui transcende et qui n'est pas seulement l'immanent. Et vous le dites tous, vous le chantez, vous le criez pendant les premiers jours de l'année. Adonai Hu HaElohim. Mais comme vous le chantez avec des airs, vous oubliez ce que vous dites. Parce que l'air, parfois, prend l'importance et le dessus sur les choses que tu dis. Alors ça fait Adonai Hu HaElohim, Adonai Hu HaElohim. Et tout le monde répète, ça fait style, tu rentres en transe. Mais il faut que tu comprennes ce que tu dis. Yudke Vavke, le tétragramme, pénètre dans Elohim, et à eux deux, vont te donner une direction à ta vie qui est complètement circulaire. Donc ton cercle a trouvé un sens, et il est devenu une spirale. Tu es en train d'avancer dans un monde circulaire, mais qui va quelque part, qui a un lendemain, qui a un but. Pas comme ceux qui vivent toute la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est ça le problème. Dans notre semaine, c'est la même chose. Les 6 jours de la semaine, c'est un grand cercle, et le Shabbat est directionnel. Et si tu ne trouves pas le Shabbat, ta droite, dans le cercle de ta vie, eh bien tu es paumé. Dans le vrai sens du mot, hein. Pas P-A-U, comme une pomme, paumée. Tu restes dans une bulle. T'es foutu. Les Chachamim nous disent que Yerushalem, comme ça on l'appelle dans la Torah, elle-même, elle a une valeur numérique, 586. 5 plus 8 plus 6, 19. 9 plus 1, 10. 1 plus 0, 1. Donc Yerushalayim, c'est 1. Mitzrayim, 2. Donc tu sors du 2, Mitzrayim, pour atteindre l'unité, l'unicité divine. C'est très difficile dans notre monde de trouver l'unicité. On ne comprend rien à l'unicité. Quand je vous dis 1, qu'est-ce que vous faites immédiatement, tellement vous avez peur? Vous fermez les yeux. Ben oui. Chaque fois que vous dites 1, vous fermez les yeux. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc il vaut mieux que je ferme les yeux. Vous savez pourquoi on ferme les yeux quand on dit le schéma? Mais parce qu'on est tellement perturbé par la multitude de détails que tu ne peux pas comprendre le sens de l'unicité. Donc on te dit au moins ferme les yeux parce que tu vas te paumer dans tous les détails que tu vois. Tu ne vas pas comprendre ce que ça veut dire ce 1. Et donc, pour retrouver l'unité de Dieu, il faut atteindre un degré métaphysique. Et c'est ce qu'on appelle en réalité le degré transcendantal, le tétragramme. Et donc, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Eh bien, le livre de Bamidbar vient me l'enseigner. Je dois sortir d'Égypte, de Mitzrayim, pour arriver à Yerushalayim. C'est simple. Combien de voyage il y a entre Mitzrayim et Yerushalayim, 42. Encore une fois, Tzimtzoum, contraction, 4 plus 2, 6. Ça veut dire que le cheminement d'Israël est un grand 6 en lettres hébraïques, Vav. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav. Donc nous sommes un Vav. Vous savez ce que ça veut dire Vav en hébreu? Union, rocher. Par exemple, dans le temple du désert, il y avait ce qu'on appelait des vavim, ceux qui attachaient une poutre à sa voisine. Vavei ha'amudim. Est-ce que vous êtes des vaves? Posez-vous la question. Les chrétiens nous ont répondu. Ils ont un vav, mais ils l'ont coupé au niveau de la tête. Comme ça, il y a une séparation totale entre Dieu et ses arbres. Et la matière, et la royauté. Autrement dit, dans la chrétienté, contrairement au judaïsme, on sépare l'État du divin. Chez nous, c'est l'inverse. C'est interdit de séparer l'État du divin. Il faut faire rentrer le divin à l'intérieur de l'État. Encore une fois, le tétragramme dans le nom de la nature. Maintenant, ce vave-là que vous êtes, que nous sommes un vave, quelle force a-t-il dans le langage hébraïque? Comment est-ce qu'on appelle ce vave en hébreu? Vav ha chibur, c'est le vave du lien, ça nous le savons. Mais il a une autre fonction, vav ha hipur. Qu'est-ce que je peux faire avec ce vave? Bien, très simplement, transformer le passé en futur. Ou le futur en passé. Encore un secret du langage hébraïque. Par exemple, le passé haya, je place juste la lettre vav avant, et ça devient ve haya. Et c'est déjà un futur. Incroyable. J'ai pris un passé, je l'ai transformé en futur. Et les sages nous disent, quand je fais du passé un futur, ve haya, la shon, Simcha. À chaque fois que vous voyez Vehaya, nous dit la Gemara, c'est une connotation de joie. Pourquoi? Quelle est la joie dans notre vie? C'est que ton passé devient futur. Regardez bien la sagesse de nos sages et la sagesse de la Torah. Par contre, lorsque tu as un futur, Iye ou Yehi, et tu mets un vav devant, Va, Yehi, tu l'as rendu, le futur, passé. Et là, les sages nous disent, la Shon Tar, tu es dans une angoisse maintenant, parce que ton futur, tu l'as transformé en passé. Donc, transformer le passé en futur, c'est une joie. Mais transformer le futur en passé, c'est la mort. Donc, méfiez-vous quand vous commencez à parler au passé. Nia Hasra. quand j'étais jeune, dans mon temps, la musique, c'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, le machin, c'était pas du tout aujourd'hui, le monde, il est... Tout était mieux avant. Là, tu es en danger. Et les sages nous disent que quelqu'un qui prend son futur et qui le place dans son passé, il a jeté son avenir aux oubliettes du passé, dans le Avar. Par conséquent, il devient, il porte un nom en hébreu. Avarian. Avarian veut dire un voyou, un mécréant. La Avera, quand vous faites une Avera, que vous traduisez en français au ras des pâquerettes, un péché, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais peu importe, eh bien, c'est quoi le péché? Je vais utiliser ce terme naze. Eh bien, c'est tout simplement revenir dans le passé, vivre dans le passé, ne pas croire en l'avenir, ne pas voir l'avenir. Ça, c'est terrible. Ce vave-là, maintenant, nous revenons. Il a une autre fonction, mais ça, c'est encore un cours à part entière. Ce vave, il m'intéresse. Dans quelle position je dois le placer, cette lettre vave? Est-ce qu'elle est verticale ou horizontale? Ni l'une ni l'autre. Elle est oblique. Elle doit être à 45 degrés, comme dans la lettre Aleph. La lettre Aleph, c'est un Vav qui est à 45 degrés. Et qu'est-ce que fait ce 45 degrés en plein milieu de quoi? Eh bien, il y a un Yud en haut et il y a un Yud en bas. C'est comme ça qu'on écrit le Aleph. Autrement dit, cette lettre Vav que vous êtes, que nous sommes en tant que peuple d'Israël, avec les 42 voyages entre l'Égypte et Jérusalem, nous avançons, comme je vous l'ai dit au début de mes propos, avec un angle de 45 degrés qui est toujours en chute. 45 degrés, ça va tomber. Mais il y a toujours un pied qui vient rattraper ta chute. C'est comme ça que tu avances dans la vie. Donc nous sommes un vav à 45 degrés. 45 degrés, c'est un angle de pénétration des valeurs transcendantales pour pénétrer dans le monde de l'immanent. Avec des mots simples, quand je veux faire le lien entre deux mondes, je dois utiliser un angle à 45 degrés. Et pas n'importe quelle lettre, la lettre Vav. Donc nous sommes le peuple qui s'appelle le peuple du Vav à 45 degrés. Et qu'est-ce qu'il fait ce peuple à 45 degrés? Eh bien, il fait le lien entre les valeurs d'en haut. C'est le Yud qui est au-dessus du bas. Et les valeurs d'en bas, ce sont les valeurs réfléchies. D'accord? Vous voyez qu'il n'y a pas de perte. Le Yud qui était en haut doit se retrouver en bas. Si j'ai perdu quelque chose, il y a un problème. Or, le Yud en haut, en valeur numérique, c'est 10. Le Yud d'en bas, c'est 10, et la lettre Vav, c'est 6. Je suis dans le nom de Dieu, le 26. Donc le Aleph, c'est le 26 du divin. Maintenant, pourquoi la lettre Vav ne peut pas être verticale? Parce qu'elle aurait séparé totalement le Yud du côté droit du Yud du côté gauche. Et pourquoi elle n'est pas horizontale totalement? Parce qu'elle aurait séparé le Yud d'en haut du Yud d'en bas. Donc la formule que la Torah a trouvée, c'est que la lettre Aleph qui emprunte la lettre Vav doit être dans un angle de 45 degrés, qui comme par hasard est la valeur numérique de Adam, l'homme. Donc l'homme c'est quoi? Un Vav à 45 degrés. Or, qui est appelé homme? Israël. Atem Kruim Adam. Les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Incroyable. Prophétie. Akadosh Baruch Hu. Donc Israël est appelé Adam, donc un Vav à 45 degrés. Donc c'est le seul peuple qui est capable d'être à 45. 45, si je ne me trompe pas, c'est Gimel 3 plus Aleph 1, ça fait 4, plus Vav, ça fait 6, ça fait donc 10, plus Lamed, ça fait 30, donc ça fait 40, plus He, ça fait 45. Yehoula. Géoula, c'est 45. Donc, la Géoula, c'est quoi? C'est Adam qui sait se placer en tant que Vav dans un angle à 45 degrés. Et qui fait le lien entre les valeurs transcendantales et les valeurs de l'immanence. Donc, ils prennent les forces de Yud, Kevav, Kedi, Tetragramme et qui savent le faire entrer dans le monde de Elohim. Mais ceux qui sont dans le monde de Elohim, de la nature, ne peuvent pas connaître le tétragramme. Par exemple, Paro. Paro dit de sa bouche, Lo yadati et yutke vaske. Je ne sais pas. Je ne sais même pas de quoi tu parles quand tu me parles du tétragramme. Moi, je ne connais qu'un seul nom. Elohim, la nature. L'Égypte, c'est la nature. L'Égypte, c'est une maison d'esclaves. Pas que le peuple d'Israël était en esclave en Égypte, en esclavage. Non. Toute l'Égypte est une maison d'esclaves. Et à l'intérieur de cette maison d'esclaves, il y a le roi de cette maison d'esclaves qui s'appelle Pharao, qui est lui-même le roi des esclaves. Et qui a servi d'autres esclaves. Mais ils sont tous esclaves. Esclaves de quoi? Eh bien, de leur dieu. Quel est le dieu de l'Égypte? Chronos. Comme le dieu grec. Chronos, c'est quoi? C'est le dieu du temps. C'est pour ça qu'on l'appelle chronomètre aujourd'hui. C'est ça le chronos. Donc en réalité, en Égypte, on sert qui? Le temps. Et quel est le dieu du temps? Eh bien, le premier des astres du mouvement circulaire de tous les astres de l'année, c'est-à-dire le bélier. Donc qu'est-ce que le peuple d'Israël doit faire pour sortir de ce monde circulaire étouffant? Prendre ce bélier et l'attacher, et après le manger. Faire un sacrifice de ce bélier, donc un sacrifice de la relève. Et tu dois manger en réalité pour dire, moi je ne suis pas soumis à ces limites. Je transcende, je sors. Donc je sors d'Égypte. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est pas un mouvement d'esclaves comme vous voyez dans le film avec une belle musique et des baluchons et des mecs qui sortent. Faut arrêter. Aujourd'hui, vous-même, vous pouvez être dans cet état esclave parce que vous êtes dans un monde circulaire qui tourne en rond si vous n'avez pas encore trouvé votre Israël, votre ligne droite. C'est très 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 facile de rester dans le cercle de sa vie, Rabotai. On est tranquille dans ce cercle. Le cercle du sang rassure. Vous savez que les prisonniers ont du mal à sortir de prison. Tous les matins, la sirène, on se lève, on se brosse les dents, la musique. On va, il y a un Mizar Boker, tout le monde est debout. On va manger. On va faire un petit travail, on revient, on est dans sa chambre avec un petit bouquin. 14h, sport. C'est tous les jours la même chose, un rituel circulaire. Le type, quand il sort après 12, 15, 20 ans de prison, il est fou. Il est paumé. Mais c'est la même chose, il y a des gens qui préfèrent leur tranquillité. Ne pas avancer, ne pas trouver une ligne. Tourne en rond toute sa vie. Et c'est ça le problème de Hatsoui, de celui qui est fait. Et c'est ça la valeur de celui qui marche. Mais encore une fois, pour marcher, il faut être capable de démonter ton temple, ton édifice, que tu as construit ça aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que je suis capable de rentrer chaque matin dans mon atelier de peintre et de me réinventer? Et ne pas être la suite du Yoel d'hier. Ça, c'est facile. Est-ce que je suis capable de me considérer comme quelqu'un qui vient de naître? C'est pas facile, ça. Et si tu ne le fais pas, tu ne pourras jamais avancer. Et donc, ce qu'il manquait en Égypte, c'est le renouvellement. Il n'y a pas de nouveau en Égypte. Vayakom Melech Chadash. Ah, ben voilà, c'est nouveau. Al-Mitzray. Non. Asher lo yada et Yosef. Traduction en français. traduction naze, comme d'habitude, se leva un nouveau roi en Égypte, tout en carton, peu importe, tout en camon, qui ne connaissait pas Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, un nouveau roi, soi-disant nouveau, mais qui ne connaît pas Yosef. Yosef, c'est pas le prénom de quelqu'un. Yosef, c'est rajouter Léotis. Autrement dit, n'importe quel roi en Égypte qui peut venir à la place d'un autre roi ne peut jamais se renouveler. Ils n'ont pas ce sens du renouvellement, de ce rajout, de cette avancée. Yosef, Yaakov a failli tomber dans ce piège. Bikesh Yaakov l'Ishev Beshalva. Yaakov, il a voulu se reposer. Il s'est dit, ça y est, moi, je suis vieux. Kafat alav rugzo shel Yosef. Dieu lui a donné l'histoire de Yosef. Alors au premier sens, ça veut dire qu'il a commencé à toutes les histoires avec son fils Yosef. Mais c'est pas ça. C'est que Dieu empêche Israël de stagner. Il nous oblige à avancer. Vous croyez pourquoi il y a autant de gens autour de nous qui sont contre nous? Tout simplement pour nous faire inventer, réinventer tous les jours d'autres choses. Comment on est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui? C'est rien encore par rapport à ce qu'on va être dans 20 ans, Bezrat Hashem. Ils sont en train de devenir fous. À chaque fois qu'on s'enferme quelque part, tu sors par un autre trou et tu inventes quelque chose de nouveau. Toutes les start-up en Israël, c'est des inventions parce qu'on nous a étouffés. On nous a fait le BDS ici, on a ouvert juste en face avec la Chine. On nous fait des tunnels souterrains, on a inventé des machines qui voient à partir de l'air maintenant les souterrains. On n'a même plus besoin de rentrer des soldats. Tout ça sort, tout ça. Mais parce qu'on nous accule au mur. C'est ça le peuple d'Israël. On nous empêche de rester tranquille pour notre bien, pour ne pas qu'on s'endorme. Alors si vous voulez être tranquille dans votre vie, sans qu'on vous envoie des problèmes, ne vous endormez pas. Et donc vous n'aurez plus de problèmes qui sont là seulement pour vous réveiller. Parce que vous, vous êtes réveillé tout seul. Donc ne vous endormez jamais, vous n'aurez aucun problème dans la vie. Vous comprenez le sens de la sortie? Et donc le peuple d'Israël s'appelle comment? Am Hashem, le peuple de Yudke Bavke. C'est pas n'importe quoi, nous sommes le peuple de ce degré de quatre lettres qui est transcendant. Donc le seul souvenir dans ce monde circulaire, dans ce grand ballon, il y avait un film, non, comme ça, avec une boule qui étouffait les gens. Il y a très 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 longtemps. Il y avait un village comme ça où il y avait une grande boule qui s'avançait comme ça et le type il était étouffé avec. Eh bien c'est exactement ça. Sortez de cette boule. Et Pharao ne connaît pas. Et donc quiconque ne connaît pas ce tétragramme, eh bien il est encore dans ce monde. Et c'est pour ça que c'est le tétragramme qui descend lui-même pour sortir le peuple d'Israël de son cercle égyptien. Ani Yudke Vavke, Ani Hashem, Velo Acher. Personne d'autre, c'est moi qui suis descendu. Autrement dit, pour faire sortir un homme ou une femme de son cercle de vie, fermé, encerclé, embagué, eh bien il faut un tétragramme, il faut une direction, il faut un sens. Et c'est ça en réalité le but même de la Torah. Car si la Torah se suffisait à elle-même, eh bien, il suffirait d'étudier la Torah. On est d'accord? Mais ça ne suffit pas. Parce que s'il suffisait d'étudier la Torah, où est-ce qu'on aurait pu la vivre, cette Torah? N'importe où dans le monde. Or, Akadosh Baruch Hu nous dit, non, tu ne peux pas vivre la Torah n'importe où dans le monde, comme on essaye de vous faire croire, parce qu'il y a une communauté, je ne sais où, là-bas, à Metz. Alors venez faire votre alia. On étudie la Torah là-bas. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. C'est au pluriel, c'est en train de mourir au pluriel. Mais tu n'as rien compris à l'histoire. La Torah, elle a une direction. Elle doit être reliée à quoi? À ce qu'on appelle dans la Kabbalah la malchut, la royauté. Qu'est-ce que c'est qu'une royauté? Vous croyez que c'est des mots bombastiques comme ça? La royauté, c'est quelque chose de très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un roi d'Israël selon la halakha? Eh bien, c'est un homme qui gère l'indépendance de son peuple sur sa terre, pas ailleurs, et qui a une monnaie avec laquelle il fait du commerce, et une armée avec laquelle il protège son état. Voilà les halakhot, halakha, Torah, halakha, Rambam, Maïmonide, de ce que c'est un roi d'Israël. Le summum des rois d'Israël, c'est qui? Mashiach. Donc, il ne peut pas y avoir un Mashiach en dehors de la terre d'Israël, qui n'est ni monnaie, ni armée, ni souveraineté. De quoi vous parlez? Arrêtez de mentir à vos enfants. Donc, la Torah n'est pas virtuelle. La Torah est liée à la malchoute, à cette royauté. Et je vais vous donner une preuve, halakha. Dans les synagogues ashkénazes et dans certaines synagogues séfarades aussi, qu'est-ce que nous devons lire le soir de la veillée de Shavuot, le matin à la tfila? La Megillah de Ruth. Vous savez ce que c'est la Megillah de Ruth? Qui c'est Ruth? C'est la grand-mère de David Hamelech. Donc c'est la grand-mère de la royauté d'Israël, du premier roi d'Israël, du vrai roi d'Israël, de celui de quel on prend l'exemple. Donc la royauté, c'est quoi? C'est la direction de la Torah. Et moi, je vous pose la question très simple. Pourquoi je dois lire la Megillah de Ruth précisément le jour où je fête le don de la Torah? Ça vous fait facile, ça, dans la tête? Tout simplement pour nous dire que Torah tout seul ne vaut rien. Si la Torah n'est pas liée à la Malchut, à Ruth, eh bien, t'as rien fait, mon vieux. Et c'est pour ça que les Chachamim dans la Gemara nous disent quelque chose qui fait très peur. Kol ha-omer, quiconque dit, Eli, et la Torah, moi je n'ai que la Torah dans la vie, afilu Torah en lo. Il n'a pas de Torah. Parce que la Torah ne peut pas être seule, elle est obligée de venir avec la royauté, avec un sens politique. Souveraineté d'Israël, indépendance de la nation sur sa terre. Voilà à quoi doit être reliée la Torah. Le Rav Kook nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit que la sainteté supérieure a une souffrance, mais alors une souffrance que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est comme un guitariste dans son rêve où il n'arrive plus à trouver les notes. Et tout ce qui sort, c'est n'importe quoi. Il devient fou. Eh bien, la Kedusha supérieure, nous dit le Rav Kook, elle a une souffrance exactement ressemblante à celle-ci. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont enfermé la Torah dans des vêtements, comme si la Torah c'était seulement un livre de loi. La Torah c'est pas un livre de loi, la Torah c'est une vie. Et si vous êtes tombé dans la potion des religieux, eh bien vous êtes naze. C'est dommage. La Torah n'est pas une religion. Le judaïsme n'a jamais été une religion. Le judaïsme s'adresse à une nation qui doit venir fonder une malchoute sur sa terre. Eh bien, c'est exactement tout ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que nous sommes sortis d'Égypte. Je vous rappelle qu'on aurait pu rester en Égypte. Mieux encore. Allez, on va sortir d'Égypte. On va ouvrir une très belle yeshiva. Comment elle s'appelle? Har Sinai. À l'entrée de la yeshiva, il y a marqué Yeshivat Har Sinai. Cette fois-ci, c'est plus Aaron HaKohen le rabbin, c'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a qu'en français où on fait des... Hein? Moshe Rabbeinu le grand rabbin. Tu dois t'acheter des vêtements. Non, ils poussent avec toi, ils grandissent avec toi, ils sont repassés avec toi. Tu bois de l'eau miraculeuse de Myriam, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. La manne, tu n'as même pas besoin de demander, tous les matins elle tombe du ciel. L'éducation des enfants, aucune crainte. Mont Sinaï, Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi quitter le Mont Sinaï? Si la Torah suffisait, reste là-bas. Eh bien, la Torah vient nous dire à Kadosh Baruch Hu, Rav Lachem Shevet Baharazé. Vous n'avez rien compris, ça suffit. Vous êtes coincés dans cette montagne. Pnou ou Sou Lachem. Changez de direction et avancez. Voyagez. Et là-bas, toutes les parties de la terre d'Israël sont relatées. Moralité. Il faut faire très attention de ne pas rentrer dans ce piège. Le roi d'Israël devait s'écrire deux livres de Torah. Un comme chacun de nous, Vous savez que chacun de nous a la mitzvah de s'écrire un Sefer Torah. Et le deuxième, qui était le livre du roi pour gérer le royaume avec la Torah. Encore une fois, le lien entre la Torah et la Malchoute. Sinon, tu déplaces du courant d'air dans un ghetto qui s'appelle Goshen. C'est tranquille en Égypte, c'est ton ghetto. Et c'est tout, et tu t'y dis là-bas toute la journée, tous les matins, tu as une chavruta. Tu auras une flèche. Je semble me moquer, mais en réalité je pleure dedans, de ça, je pleure de ça, de ce qu'on a fait de la Torah malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a du mal à nous défaire de nos cadenas. On est cadenassés par des systèmes de 2000 ans d'exil. Moshe Rabbeinu, quand il veut sauver le peuple d'Israël et que Dieu commence à lui parler, il dit « Moshe, moi je te parle même pas. Tant que tu n'enlèves pas tes chaussures. » Non, ça c'est en français. Vraiment, vous prenez la Torah pour un livre Alibaba ?« Shalne alecha, Moïse, enlève les chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu poses est sainte. » Allah Yisrael. Mais on a tué la Torah, on l'a tuée. Moshe Rabbeinu, enlève les cadenas de ta vie. Naal, c'est pas une chaussure dans la Torah, c'est Manoul. Atanaoul, tu es enfermé. Tu ne peux pas avancer dans ta vie, tu ne peux même pas rêver de rédempter le peuple d'Israël parce que toi-même tu es coincé dans une prison égyptienne qui a fait les grandes études dans l'université d'Alexandrie avec le roi Pharaon et c'est toi le futur Pharaon. Alors est-ce que tu es capable d'enlever ces cadenas? Et Moshe Rabbeinu qui enlève ces cadenas. Et quand il enlève ces cadenas, il commence à recevoir la lumière divine. Qu'est-ce que c'est qu'enlever ces cadenas? Vient sortir du monde circulaire pour retrouver le monde rectiligne. C'est la même chose. Et pour ça, il faut beaucoup de courage. Sinon, toute votre vie sera un édifice construit sur ce que vous avez déjà construit hier. Et ça, c'est pas le judaïsme, Rabotai. Je ne suis pas aujourd'hui, hier plus un. C'est ça que vous ne comprenez pas. Le judaïsme, c'est quelque chose d'autre. C'est la capacité d'annuler quelque part ce que j'étais hier pour me réinventer demain. Et je vais vous donner une preuve, et avec ça, je termine le cours. Vous savez quel jour le Mashiach est né? Tisha B'Av. Le jour du 9 Av. Qu'est-ce que s'est passé le 9 Av? Le temple a été détruit. Autrement dit, tu ne peux pas atteindre un niveau qui s'appelle Mashiach si tu n'es pas capable de détruire le temple que tu avais jusqu'à aujourd'hui. C'est pas ta petite vie, le temple de Jérusalem, tu es capable de le détruire? Ah, mais c'est un temple quand même, j'ai construit toute ma vie, j'ai fabriqué un édifice. Ben oui, mais si tu veux te renouveler, tu es capable de détruire ce degré pour atteindre un nouveau degré que tu n'as même pas rêvé atteindre. Comment s'appelle la montagne sur laquelle la Torah a été donnée? Fascinaï, ne me dites pas Sinaï. Elle a un autre nom. Chorev. Qu'est-ce que ça veut dire Chorev en hébreu? Destruction. Comment la Torah a été donnée sur la montagne de la destruction? Traduction. Si tu n'es pas capable de détruire ton édifice d'hier, tu ne seras jamais quelqu'un de nouveau demain. C'est ça le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que l'État d'Israël d'aujourd'hui est né de quoi? De cendres. De rien. On a disparu. On est comme un phénix. Tu le brûles et il renaît. Incroyable. Et tous les jours, nous les individus, on doit être capables de faire ça dans nos vies. Et ceux qui sont capables de faire ça ont une force, mais une force, que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans tous les domaines, chacun a fait ce qu'il a fait depuis 40 ans, il continue encore, il est bloqué dans son système. Il ne peut même pas réfléchir. même dans l'étude de la Torah. Vous savez ce que disent les sages pour pouvoir réellement étudier avec courage la Torah? C'est Ulmad. Sors et étudie. Pourquoi on ne te dit pas étudie? Mais parce que tant que tu n'es pas sorti de quoi? De ta petite boîte d'hier, avec ton système de réflexion d'hier, tu n'es pas capable d'être réellement quelqu'un qui va apporter une nouveauté à la Torah. Réfléchissez bien à tout ça. C'est toute notre vie qui est à l'intérieur de ça. Et c'est ça le livre de Bamidbar entre Mitzrayim et Yerushalayim. Toda Rabba. Merci pour votre cadeau généreux, je vais l'ouvrir tranquillement. C'est fini, hein? Je sais pas, moi, il y a une hypnose.
On n'ose pas sortir.